Disque de la parole. Une émission où Pierre-Paul Delvaux vous propose une lecture cursive de l'Évangile de Jean avec José Willibald Michaud, moine à Maritsou. Parce que lire un grand texte, c'est être le propre lecteur de soi-même.
Bonjour à tous. Au micro, Pierre-Paul Delvaux pour continuer notre lecture cursive de l'Évangile de Jean, en compagnie du Père José Willibald Michaud. Père José, bonjour. Nous entamons aujourd'hui le chapitre 6, qui est un chapitre difficile. Et cependant, ce chapitre commence par deux épisodes qui nous sont familiers. Dans le premier épisode, Jésus nourrit une grande foule, 5000 personnes, dit-on, à partir de 5 pains et 2 petits poissons. Ensuite, une autre scène qui est étrange, c'est l'épisode où Jésus marche sur les eaux, la nuit, au milieu d'une tempête. Et puis, il y a, dans la deuxième partie du chapitre, ce qu'on appelle souvent le discours sur le pain de vie. Et là, c'est une partie de l'évangile de Jean qui est nettement plus difficile. Mais nous allons commencer par nous replonger dans le texte de Jean, au chapitre 6, au tout début. Après cela, Jésus passa sur l'autre rive de la mer de Galilée, dite encore de Tibériade. Une grande foule le suivait parce que les gens avaient vu les signes qu'il opérait sur les malades. C'est pourquoi Jésus gravit la montagne et s'y assit avec ses disciples. C'était peu avant la Pâque, qui est la fête des Juifs. Or, ayant levé les yeux, Jésus vit une grande foule qui venait à lui. Il dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour qu'ils aient de quoi manger ?» En parlant ainsi, il le mettait à l'épreuve. Il savait quant à lui ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « 200 deniers de pain ne suffiraient pas pour que chacun reçoive un petit morceau. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un garçon qui possède 5 pains d'orge et 2 petits poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc. Ils étaient environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, il rendit grâce et les distribua aux convives. Il fit de même avec les poissons. Il leur en donna autant qu'ils en désiraient. Lorsqu'ils furent rassasiés, Jésus dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux qui restent, de sorte que rien ne soit perdu. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui étaient restés à ceux qui avaient mangé. À la vue du signe qu'ils venaient d'opérer, les gens dirent, « Celui-ci est vraiment le prophète ?» Celui qui doit venir dans le monde. Mais Jésus, sachant qu'on allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau, seul, dans la montagne. Le soir venu, ses disciples descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque et se dirigèrent vers Capharnaüm, sur l'autre rive. Déjà, l'obscurité s'était faite et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un grand vent soufflait et la mer était houleuse. Ils avaient ramé environ 25 à 30 stades lorsqu'ils voient Jésus marcher sur la mer et s'approcher de la barque. Alors ils furent pris de peur, mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Ils voulurent le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque toucha terre au lieu où ils allaient. Voilà, Père José, deux scènes qui nous sont familières, mais elles ne sont pas mises n'importe où. C'est le début du chapitre 6.
D'accord. Oui, c'est deux scènes familières, et toutes les deux, mais différemment étranges, surtout la seconde, évidemment. Donc, on va essayer d'en entendre, d'en deviner le mouvement, parce qu'il y a un mouvement dans ces deux scènes. D'abord, il y a cette indication topographique multipliée sur le va-et-vient entre la montagne, le rivage, la mer. Que veut dire ce va-et-vient? Il y a du mouvement dans le texte. Hein. Alors, il y a le premier signe, le premier fait, c'est ce qu'on appelle la multiplication des pains. Jésus est soucieux de nourrir cette foule affamée qui le suit avec obstination. Il a même le souci de les faire asseoir sur l'herbe de rue et verte. Et il dit « faites-les s'étendre ». Le mot grec dit « s'étendre ». Donc il a le souci de les reposer. Et notons que c'est la seule parole qu'il prononce dans ce récit. Puis il bénit, mais on ne donne pas ses paroles, la besace d'un petit garçon avec ses cinq pains et ses deux petits poissons. Et on dit qu'il les distribue jusqu'à la satiété de la foule. Il restera 12 corbeilles. Donc la foule, séduite, le reconnaît comme prophète et veut le retenir comme roi. Et c'est alors que Jésus s'efface et se retire seul dans la montagne. Alors je voudrais retenir ce mot, seul, il se retire dans la montagne. Vers quoi ou vers qui se retire-t-il? Est-ce que c'est vers lui-même, vers le Père? Est-ce qu'on peut y sentir ou y pressentir le prélude de l'ascension? Cet effacement de Jésus qui, je ne dirais pas, s'évade, mais va plus loin, dépasse toujours l'immédiat, il s'échappe de l'immédiat. Quant aux disciples, ils retournent vers la mer et s'embarquent. Mais ils vont, eux, vers la mer, la nuit et la tempête. Et c'est là, dans ce tumulte et cette confusion que Jésus les rejoint, il ne les avait pas encore rejoints, et le mot grec dit « il s'approche mystérieusement ». Il ne montera pas dans la barque, hein. Ça je crois qu'il faut le retenir. Alors, en le voyant, il commence par avoir peur, et Jésus les rassure par cette phrase évidemment impressionnante, « C'est moi, ego eimi, je suis Yahweh ». Donc cette phrase que Jésus prononce plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Et le réflexe des disciples est évidemment, nous pouvons le comprendre, ils veulent le retenir et l'embarquer. Mais il ne montera pas dans la barque, parce que à ce moment-là, au moment où ils veulent le retenir, ils se retrouvent au rivage, ils sont arrivés. Pourquoi? Comment? Alors, je m'arrête ici, je me dis, est-ce que le rédacteur évoque ici quelque chose de plus profond que l'immédiateté des faits? Est-ce qu'il évoque ou est-ce qu'il nous laisse deviner le cheminement incertain d'une Église naissante? Est-ce que ce n'est pas le cheminement de l'Église? Est-ce qu'il n'y a pas un profil du récit intentionnel? On pourrait l'entendre comme ceci, nourri par la parole et par le pain du partage. Les disciples, cependant, peinent dans la houle de la vie, en pressentant seulement la présence du Christ dans son absence. Il n'est pas monté dans la barque, mais il la guide et il sent ce mouvement. Il me semble qu'il y a ce profil dans le récit. C'est évidemment le cheminement de l'Église dans la tempête, dans la houle. Les sentiments des disciples qui ont peur, qui sont inquiets, qui vivent son absence, qui devine sa présence. C'est notre situation.
Au fond, ils sont en train de vivre le manque, l'absence,
oui.
Et autrement dit, le désir.
Sûrement. Sûrement, le désir est là tout le temps. C'est l'évangile du désir, le quatrième évangile. Il faut se laisser mener vers la profondeur subtile de ce récit. Il est toujours possible de rejoindre un récit dans sa matérialité, de l'immobiliser dans cette matérialité, ou bien, au contraire, de se laisser guider par l'esprit qui inspire le récit et de traverser avec l'esprit les faits matériels que transcende pour nous désormais le fait transhistorique de la résurrection. C'est Jésus ressuscité et retourné vers le Père qui revient vers les disciples, qui rejoint ses disciples peinant dans la mer. C'est le Jésus ressuscité. C'est pas le Jésus d'avant la Pâque.
Et vous y avez fait allusion tout à l'heure, Père José. C'est moi, n'ayez pas peur.
Oui.
Le c'est moi, c'est bien ce qui s'est passé au moment du buisson ardent.
Ah oui.
Et pour un juif, je pense que c'est évident. Oui. Mais c'est pas seulement c'est moi, c'est je suis.
Oui. Ah oui,
vous pouvez y revenir un instant?
Oui, je crois que donc ego eimi ou Yahweh, puisque c'est le mot imprononçable d'ailleurs. C'est ça qui revient comme un refrain dans l'évangile de Jean. Jésus, à plusieurs reprises, laisse émerger son identité profonde qu'il enferme dans ce mot infini, dans ce mot inépuisable et imprononçable qui est « je suis ». Je suis là. Me voici. Et je surgis. Dans Yahweh, il y a la nuance de surgissement dans l'imprévisible.
Et cette parole est prononcée la nuit, au milieu de la tempête, au milieu de l'effroi et de la confusion.
Dans la confusion.
Nous allons faire déjà une première pause musicale, Père José, et ce sera un impromptu de Schubert, interprété par Radu Lupu. Mmh.
Thank you.
Sur RCF, nous continuons notre lecture cursive du début du chapitre 6 de Saint Jean. La multiplication des pains et puis Jésus qui marche sur les eaux. Et le Père José a beaucoup insisté sur le mouvement qu'il y a dans ce début de chapitre. Et nous sommes arrêtés sur cette parole assez extraordinaire, en pleine tempête, en plein désarroi, en pleine peur, en pleine panique même, Jésus dit « Je suis ». Et c'est l'allusion à, finalement, la déclaration de Dieu qui dit « je suis celui qui suis, je suis », qui est à la fois un présent, un mouvement, et vous avez l'habitude de dire, Père José, un surgissement.
Un surgissement. Oui, je crois que c'est la phrase qui polarise tout le récit. Parce que il faut partir de cette phrase pour entendre ce qui suit, c'est que à peine le signe produit, celui de la conversion des cœurs qui s'ouvre au partage, Jésus se retire, s'efface, se prolonge, si je puis dire, et laisse la foule à elle-même qui retourne de l'autre côté de la mer. Où elle retrouve Jésus, on ne dit pas comment ni où. Mais la question qui surgit à ce moment-là, c'est « Mais Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» Donc, ils viennent de le quitter et sont encore émerveillés par le signe, mais ils sont troublés par son effacement, son évasion et cette retrouvaille étrange. Mais on ne précise pas où.
Et donc finalement, ce Jésus les étonne et les trouble, oui. Certainement. Alors nous pourrions peut-être revenir à cette multiplication des pains, Père José. C'est un miracle un peu étrange qui semble marqué par une certaine magie. Ce n'est peut-être pas tout à fait la manière habituelle de Jésus.
Mais sûrement pas. Jésus répugne et à la magie et au prodige. Il n'aime pas le prodige.
Alors comment lisez-vous cet épisode ?
Mais je vous l'ai dit, pour moi, c'est un événement surtout spirituel. C'est la conversion des cœurs dans la contagion de la générosité.
À partir de ce petit pique-nique qu'un enfant portait, cinq pains, deux poissons.
C'est l'enfant qui commence le partage, sur l'invitation de Jésus. Jésus le bénit simplement.
Et le partage est contagieux. Et donc ce n'est pas un pique-nique qui est partagé, c'est un pique-nique qui va devenir 5000, qui va nourrir 5000 personnes.
Tout à fait. C'est un programme pour l'humanité.
Et donc nous ne sommes plus tout à fait dans la magie, mais nous sommes dans le signe alors.
Nous sommes dans le signe. Et là, je crois qu'il y a toujours deux façons de lire l'Évangile. C'est d'immobiliser les récits dans leur immédiateté. Pour moi, ça le stérilise. Ou bien de nous laisser guidé par l'esprit qui anime ce récit et qui l'ouvre à bien autre chose, dans la mouvance et la fluidité qui nous mène au-delà de l'immédiateté des faits, au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre compréhension première, vers l'accueil d'une vérité débordante.
Et nous sommes encouragés dans cette lecture par toutes les indications de mouvement, toutes les indications topographiques ici, par le caractère étrange de cette deuxième scène où Jésus marche sur les eaux et où finalement, dans la suite du chapitre, nous allons le voir ensemble, il y a une sorte de jeu de cache-cache. Il cherche quelqu'un qui se dérobe, mais il le rencontre, il pose des questions, et puis Jésus répond de façon tout à fait étrange. Et donc nous sommes vraiment dans une relation où il y a un décalage.
Il y a un mouvement dans le récit qui va suivre, et on va essayer de suivre ce mouvement. Ce n'est pas simple d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est la question « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ?» qui provoque le discours. C'est à cette question que Jésus commence à répondre.
Et comment interprétez-vous ça justement? Non pas pourquoi, mais quand? Quand es-tu arrivé
mais
ici?
C'est ça. C'est de nouveau l'opposition entre l'immédiateté d'un fait qu'on arrête ou l'ouverture à un mouvement qui nous mène vers un devenir indéfini. Jésus a l'air de dire, mais prolongez ce que vous venez de vivre. N'en restez pas à l'immédiat.
D'ailleurs, au verset 26, que nous n'avons pas encore lu, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété.
Et que vous êtes rassasiés.
Il faut vous mettre à l'œuvre pour obtenir non pas cette nourriture périssable, mais la nourriture qui demeure en vie éternelle. Exactement. Voilà de nouveau ce grand thème que nous avons rencontré avec la Samaritaine. Oui. Là, c'est de l'eau qui jaillit pour la vie éternelle. Ici, il s'agit de nourriture qui demeure en vie éternelle.
Et d'ailleurs, vous venez de rappeler la Samaritaine, le verset qui suit fait écho à ce chapitre 4, la rencontre avec la Samaritaine, parce que quand Jésus dit « le vrai pain du ciel, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde », la foule répond « mais alors Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là, comme la Samaritaine avait dit au Christ, mais donne-la-moi cette eau que je n'ai plus soif ».
Et c'est en cela que ce jeu de questions-réponses est décalé, en quelque sorte, par rapport à l'immédiateté des faits.
Tout à fait.
Alors, il y a une petite chose que nous pourrions peut-être aborder pour la fin de cette émission, car c'est déjà malheureusement presque fini. Il propose la nourriture qui demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père qui est Dieu, a marqué de son sceau.
C'est ça.
Alors là, de nouveau, il témoigne du fait qu'il est envoyé et qu'il est marqué par le sceau. Est-ce que cette image du sceau est importante?
Oui. Le sceau, dans le langage et dans la tradition biblique, est presque une traduction de ce que deviendra l'esprit. Le sceau, c'est l'esprit. Donc, et le Fils de l'homme est marqué par l'esprit. Toute sa vie, il est conçu par l'esprit, et c'est cela qui est à reconnaître. Discerner l'esprit dans le Christ, c'est fondamental pour la foi. Juste après cette affirmation « Je suis le pain de vie », commence le murmure. Il dit, comment peut-il se prétendre notre pain et nous inviter à le manger? Et Jésus précise: nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et l'attraction du Père, c'est l'Esprit.
C'est l'Esprit.
L'attraction, c'est l'Esprit. Et nous avons à nous laisser tirer et hausser par l'Esprit. Et Saint Paul y fait écho en disant, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est dans l'Esprit.
Eh bien, c'est là-dessus que nous allons terminer cette émission en écoutant de nouveau un impromptu de Schubert sous les doigts de Radu Lupu.